rouge du Nil. Climat, désertique. Langue officielle, arabe. 2800 km depuis Lausanne. Destination, le plateau de Gizeh, Égypte.
Je crois que les micros sont branchés. Bonjour Jean-Pierre Houdin.
Bonjour Joanne, ça va ?
Ça va et vous-même ?
Vous m'entendez bien là ?
Oui, je vous entends bien. Jean-Pierre Houdin, est-ce que, je vois que tout fonctionne, mais est-ce que votre téléphone portable fonctionne également ?
Je l'ai mis en mode avion.
D'accord, parce que je vous ai envoyé une photographie.
Sur votre téléphone. Vous voulez que je l'ouvre ?
Oui, volontiers.
Alors, allons voir. Oui, vous m'avez envoyé un sphinx, c'est ça ? Il y a une très belle photo du sphinx, une vieille photo du sphinx. Il est encore ensablé, là. Et puis, je vois que vous avez mis un penseur en face du sphinx. Pour une fois, ce n'est pas le sphinx qui pense, c'est le fellah qui est assis face à lui et qui se pose des questions sur ce sphinx.
Ça pourrait être un peu vous, hein ?
Ça pourrait être un peu moi, ça pourrait être un peu moi.
Face à ce plateau célèbre.
Bah, ça fait 45 siècles que le plateau pose des questions, que ce soit pour la pyramide de Khéops, de Khéphren, Mykérinos, et puis pour le sphinx lui-même. Et que des réponses, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup de très bonnes.
Alors on va y aller ? Vous êtes prêt, Jean-Pierre ?
Oui, je suis prêt. Oui.
Monumental. Monumental. Joanne Ducey. Réalisation, Marc Frochot.
Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Houdin, je suis architecte, j'ai été diplômé à l'École des Beaux-Arts de Paris en 1976, donc ça fait déjà un certain temps, et j'ai travaillé en profession libérable jusqu'en 1996, et depuis 1999, je me suis entre guillemets égaré sur le plateau de Gizeh, mais avec forte connaissance de cause. Et donc depuis, je ne fais plus que de l'Égypte ancienne, spécialité pyramide.
La première fois, sur le site de Gizeh, vous vous souvenez de l'impression que vous avez ressentie ?
Alors là, j'ai commencé en 99 et je n'avais jamais été aux pyramides avant septembre 2004. Donc, vous voyez, cinq ans après avoir commencé à travailler sur les pyramides. J'avais déjà tellement travaillé sur les pyramides que lorsque je suis arrivé sur le plateau de Gizeh, face à la pyramide, j'ai eu deux impressions. La première, c'est « bon, ben, cette pyramide-là, je la connais par cœur ». Et puis, quand même, quand je suis arrivé au pied, je me suis dit « c'est quand même extraordinaire ». Rien qu'un bloc à côté de moi pèse 15 tonnes, c'est quand même assez extraordinaire. On n'est plus dans le virtuel, dans la 3D, dans le dessin, on est dans la réalité. C'est quand même un sacré monument fait par des mains humaines, et c'est ça qui est extraordinaire.
On est au cœur de la pyramide, c'est absolument incroyable. Et au-dessus de nous, il y a des centaines de milliers de tonnes, il y a 85 mètres de maçonnerie, et tout ça, c'est ces poutres dessus, ces chevrons qui reprennent toute la charge. Ça n'a pas bougé, un petit peu, quelques centimètres. Et il y a 45 siècles que c'est là. Il faut sentir le calme. On est au cœur. La tranquillité. C'est quand même assez émouvant. Hein.
Dans un remarquable reportage qui retrace vos travaux, dont on va parler dans cette émission, on vous voit dans ce reportage. Vous êtes dans la pyramide. Et c'est vraiment une séquence où on vous sent ému ?
Alors là, c'est bien plus tard. C'est en 2008. Alors je suis allé très souvent en Égypte après la première visite en 2004. Et en 2008, pour le tournage de plusieurs documentaires, pour France Télévisions, un pour National Geographic et un pour la NHK japonaise, j'ai eu l'occasion, qui est quand même assez unique, de pouvoir monter au-dessus de la chambre du roi, dans les chambres dites de décharge, jusque sous les chevrons. Alors c'est le vrai toit de la chambre du roi, qui est à peu près à 60 mètres de hauteur dans la pyramide, Et c'est là où d'ailleurs il y a le cartouche de Khoufou, de Khéops, qui montre donc que c'est la pyramide de Khéops, et qui est un vrai cartouche, qui n'est pas un fake, parce que quand on a le nez dessus, on se rend bien compte que c'est un vrai cartouche, c'est une vraie peinture. Et donc j'étais dans cette pyramide tout en haut, c'est là où quand même on ressent quand même quelque chose, parce qu'on est au cœur de la masse, on imagine qu'il y a 1 million de tonnes au-dessus de la tête. Puis on voit ces pierres qui sont posées en chevron, c'est comme un V inversé, et que c'est ces pierres-là qui reçoivent toute la charge. Alors, en tant qu'architecte, c'est déjà impressionnant, et puis surtout c'est impressionnant de penser que c'est là depuis 45 siècles, et que ça n'a pas bougé en 45 siècles.
Khéops, c'est quand même la pyramide la plus célèbre. Depuis toujours, on peut le dire, elle fascine. Faut dire que c'est la construction humaine de tous les records, cette pyramide.
Ben déjà, quelques chiffres. On est toujours en train d'annoncer des chiffres. 230 mètres de base carrée, 146 mètres de hauteur, 2 200 000 blocs, 5 500 000 tonnes. Donc, c'est des chiffres qui sont déjà assez impressionnants. On peut comparer au niveau masse la pyramide de Khéops au barrage au Hoover Dam sur le Colorado, où il y a à peu près la même quantité en béton, et qui a été un chantier qui a duré plus de 5 ans avec des moyens extraordinaires. Alors que là, bon, c'est quand même des moyens humains, peu de moyens, mais beaucoup d'intelligence. Et c'est ça qui est remarquable, c'est de se pencher sur l'intelligence humaine il y a 45 siècles. Nous, on se donnait des coups de gourdin dans les cavernes à cette époque-là. Les Égyptiens construisaient des pyramides, qui sont encore là.
À l'époque de Khéops, les Égyptiens ne connaissaient pas la roue. Ils tiraient les pierres à l'aide de ces traîneaux en bois de cèdre. Compte tenu des outils qu'ils avaient à leur disposition, les anciens Égyptiens ont réalisé de véritables prouesses techniques. Leurs constructions monumentales ont traversé le temps. Elles révèlent le génie bâtisseur de ces hommes de l'Antiquité et continuent de fasciner égyptologues et architectes.
Le mystère demeure concernant la méthode de construction de cette pyramide. Alors vous avez développé, documenté votre propre théorie. Mais expliquez-nous tout d'abord pourquoi vous vous êtes penché sur l'architecture de ce monument. Comment finalement tout a commencé ?
Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais été en profession libérale jusqu'en 1996. Et à cette époque-là, en fin 96, ma femme m'a dit « Tu sais, tu es architecte, c'est bien, on gagne très bien notre vie, mais on devrait faire quelque chose d'autre, on devrait redémarrer dans la vie, parce que sinon ça va devenir la routine. » Alors on a tout fermé, on a tout abandonné, on est parti à New York pendant un an. C'est bien. Et en fait, New York, c'est là où j'ai appris à vraiment faire de la 3D. C'était les débuts d'Internet, et je cherchais une idée. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé à New York. C'est en rentrant fin 98, début 99. Précisément, en début 99, mon père a vu un documentaire à la télévision qui était présenté par François de Clauset, Le mystère des pyramides. Et mon père, qui est un ingénieur qui a construit des barrages, des ponts, et pendant la projection, il s'est dit « Mais c'est pas comme ça que je ferais une pyramide. Moi, si je la faisais, je la ferais de l'intérieur. » Il m'a appelé, il m'a dit « Jean-Pierre, j'ai une idée sur les pyramides, je suis à la retraite, ça m'amuse. Tu veux pas me dessiner une pyramide en 3D avec mon idée, un peu comme le petit prince, dessine-moi un mouton. » Comme ça, j'ai pris mon ordinateur et puis j'ai commencé à dessiner une rampe selon l'idée de mon père. Alors elle était circulaire, en spirale. On s'est fait vite bouler par un spécialiste qui nous a dit « Oh, les Égyptiens n'avaient pas la roue, ils n'avaient pas... » Donc on est reparti revoir notre copie. Mais donc ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai 14 ans après, je suis toujours dans la pyramide. Mais comme je vous ai dit, la 3D était fondamentale au départ. C'est peut-être aussi l'avantage que j'ai eu sur beaucoup de gens, c'est que je ne suis pas resté sur un plan en 2D à regarder une coupe, comme tout le monde voit la coupe de la pyramide. J'ai regardé à l'intérieur comme si je faisais un scanner avec des outils 3D qui sont quand même assez étonnants.
« La théorie la plus répandue sur l'édification de la pyramide, c'est celle de la rampe frontale qui va jusqu'au sommet de l'édifice. Et pour vous, cette théorie, elle est franchement pas défendable.
Pour vous donner une image, j'aime bien imager. La pyramide de Khéops, si vous la mettez sur la place de la Concorde à Paris, oui, c'est une place qui est très large, très grande, ben la pyramide va prendre toute la place. Et si vous voulez construire cette pyramide sur la place de la Concorde avec une rampe extérieure, votre rampe va partir de l'avenue Georges V. Vous imaginez que tout le défilé du 14 juillet est sous la rampe. Le volume de la rampe sera supérieur à celui de la pyramide. Les gens n'ont pas compris une chose, tous ceux qui se sont penchés sur la construction des pyramides n'ont pas compris une chose, c'est que le problème de la construction des pyramides n'est pas un problème linéaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas de la base au sommet avec les mêmes procédés. Un volume pyramidal, quelles que soient ses pentes, que ce soit la pente des façades, hein, vous mettez 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, à un tiers de la hauteur, vous avez deux tiers du volume. À la moitié de la hauteur, vous avez 85% du volume. Donc vous imaginez la rampe, une rampe extérieure, c'est intelligent une rampe extérieure, mais il faut savoir la limiter. L'intérêt, c'est de construire rapidement deux tiers du volume. Donc vous voyez, à un tiers de la hauteur, vous avez déjà deux tiers du volume. Mais après, si vous voulez aller plus haut, ça va s'inverser. C'est-à-dire pour construire un tiers du volume, vous allez avoir deux tiers de rampe en plus, ce qui est ridicule. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec une rampe qui va être plus volumineuse que la pyramide. Et vous allez en faire quoi? C'est des matériaux que vous avez sortis des carrières, que vous avez taillés avec des outils en cuivre. Vous avez un stock de pierres, vous ne venez pas me dire qu'on va la remettre pour la pyramide suivante. C'est pas sûr qu'il y aura une pyramide suivante. Donc cette rampe extérieure, elle a un intérêt jusqu'à une certaine hauteur, mais certainement pas jusqu'au sommet.
Et quelles sont les autres théories les plus souvent mises en avant?
Alors les autres théories, c'est un peu à partir d'Hérodote, des petites machines sur des gradins. Alors ça, c'est une vue de l'esprit, parce qu'on voit la pyramide maintenant, elle a été pillée, les blocs de façade ont été pillés au Moyen-Âge en Égypte par des carriers qui ont construit des monuments au Caire. Donc à l'origine, il n'y avait pas de gradins, c'était des pyramides lisses. Et les Égyptiens ont fait des pyramides lisses pour une raison très simple, c'est que n'ayant pas d'outils très... ils n'avaient pas le fer, donc ils ne pouvaient pas avoir des burins et des ciseaux très durs, ils avaient des ciseaux en cuivre. Et ils ont découvert un matériau qui était extraordinaire, c'était le calcaire de Toura, qui n'est pas aux pyramides, qui est de l'autre côté du Nil, et sur la rive est du Nil. Ce calcaire de Toura a une particularité, c'est qu'il est très tendre dans les carrières, pendant qu'il est en strate. Il devient très dur à partir d'un certain moment, quand il a été extrait des carrières et qu'il est à l'air et qu'il est au soleil. Donc les Égyptiens se sont dit, si on arrive à tailler les blocs parfaitement au moment de la carrière, on pourra faire des belles pyramides. Mais la seule chose, c'est qu'il ne faut plus marcher dessus, il ne faut plus se poser dessus. Donc une rampe enveloppante, comme beaucoup de gens nous parlent, c'est-à-dire une rampe qui est en spirale, mais qui est à l'extérieur, qui montrait le long de la pyramide, comment vous l'accrochez sur une surface lisse? Comment vous tournez dans les angles quand vous avez des blocs qui font 60 tonnes? Vous avez 500 personnes devant, ce qui est impossible. Comment vous pouvez construire une pyramide avec une rampe extérieure en spirale? Bon, si je reviens aux machines, vous imaginez bien que les machines sur des façades lisses, vous ne pouvez pas les mettre. Donc on peut abandonner tout ça. Le problème numéro un, c'est la pensée unique. La pensée unique, c'est de dire on a construit les pyramides de l'extérieur. C'est une fausse pensée, c'est un paradigme qui est faux à la base.
Jean-Pierre Houdin, vous défendez donc une autre version, celle de la rampe interne. Je vous propose d'en reparler dans 3 minutes dans Monumental.
La pluie venait du nord.
Florent Marchais, Gaëtan Roussel.
Le vent passait sous ma porte.
Des hauts, des bas.
Je comptais vivre fort. Et que le diable m'emporte. J'allais à la fenêtre, enroulé dans un drap. Je secouais la tête, j'en écartais les bras. J'avais des hauts, j'avais des bas. J'avais plus ou moins chaud, toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas. Je crois que j'en voulais trop, j'ai même eu ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Je restais. rester enfermé. Où errer pendant des jours. Trop de chemins s'ouvraient. Trop de questions en retour. Je n'avais pas tué mon père. Mais je ne me souvenais pas ce qu'il me disait de faire. J'avais des hauts, j'avais des bas. J'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas. Je crois que j'en voulais trop. J'ai même eu ce que je ne voulais pas. 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 Chaque jour je me tenais prêt. Je guettais l'heure et la page où les eaux s'ouvriraient, me laisseraient un passage. L'espoir me faisait vivre. L'attente me rendait nerveux. Je trouvais dans les livres de quoi patienter un peu. J'avais des hauts, j'avais des bas. J'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas. Je crois que j'en voulais trop. J'ai même eu ce que je ne voulais pas. 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 Ce que je ne voulais pas.
Monumental aujourd'hui.
La pyramide de Khéops.
Sur la première.
L'une des sept merveilles du monde. 5 millions de tonnes de pierres assemblées, érigées jusqu'à 146 mètres de haut, il y a 4500 ans. Elle est la plus haute, la plus grande et la plus énigmatique de toutes les constructions pharaoniques. 45 siècles plus tard, le mystère demeure. Comment cette pyramide a-t-elle été bâtie ?
Jean-Pierre Houdin, pour vous, il ne fait aucun doute que la pyramide de Khéops a été érigée via deux rampes, dont une interne. Expliquez-nous.
Voilà, donc comme je vous ai dit, la pensée unique c'était de construire de l'extérieur. Moi je dis c'est construit de l'intérieur. C'est l'idée de mon père, le déclic génial du départ. Je vous ai dit aussi qu'une rampe extérieure c'était intelligent jusqu'à une certaine hauteur. Le problème c'est qu'une fois qu'on a fait une grande partie du volume avec une rampe extérieure qui va jusqu'au tiers de la hauteur, comment on va faire le reste? Parce que avec ces blocs de façade qui sont préparés à la carrière, qui sont numérotés, qui sont envoyés sur le chantier et qui vont être posés assise après assise, c'est-à-dire lit horizontal après lit horizontal, comment on va faire pour aller plus haut? Comment va-t-on rester à l'intérieur? Et c'est là où les Égyptiens ont eu la bonne idée, c'est de dire, dès le départ, on va construire une petite rampe qui va monter avec la pyramide, mais on va la mettre à l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas une rampe qui est des matériaux, c'est un tunnel. Et c'est un tunnel qui va monter en spirale sous les façades de la pyramide, à angle droit. Et cette rampe-là, elle va faire 1,6 km, plus d'un kilomètre 600. Et cette rampe, elle sera pas très grande parce que les blocs de la partie supérieure de la pyramide sont des blocs qui sont beaucoup plus petits qu'en bas. Donc là, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très grand. Ça fait 1,60 m de large, hein, c'est 3 coudées, mesure égyptienne. Et le débit là, à ce moment-là, n'a plus besoin d'être très fort parce qu'on a déjà construit, grâce à la rampe extérieure, dans le cas de Khéops, plus de 80% du volume. Donc c'est la rampe intérieure est vraiment le moyen d'arriver le plus près du sommet et d'une façon intelligente. Et surtout, c'est qu'elle va avoir l'avantage, c'est qu'une fois qu'on n'aura plus besoin de la rampe extérieure, comme c'est des matériaux de la carrière qui ont été extraits, qui ont été faits par, avec des blocs comme ceux de la pyramide, et bien les Égyptiens, en démontant la rampe extérieure, plutôt que de la mettre sous le tapis ou de la jeter dans les carrières, ils vont réutiliser ces blocs et ils vont faire la partie supérieure avec. Et à la fin, il n'y a pas de perte. Tout est dans la pyramide. Ça, c'est, moi, je pense que c'est de la programmation de chantier, de la conception de chantier, de penser à tous les détails. Et c'est ça que je trouve étonnant, quoi. C'est de pouvoir réussir une pyramide sans vraiment gâcher de matériaux. Et puis, c'est du développement durable, hein, ça, c'est, on peut le dire.
Du haut de ses 146 mètres, elle est restée le plus grand monument jamais construit par l'homme jusqu'à la fin du 19e siècle. Khéops est aussi la seule pyramide disposant d'une chambre en granit construite au cœur de l'édifice avec des poutres pesant plus de 60 tonnes. Un véritable défi dans le défi. Cette hauteur impressionnante et cette chambre en granit constituent les deux mystères de construction de Khéops. Personne n'a encore jamais résolu cette énigme de pierre.
Ça, c'est pour l'édification de la pyramide. En ce qui concerne la construction de la chambre du roi, là aussi, vous avez une explication.
Le problème de Khéops, c'est que les architectes, certainement pour faire plaisir à leur roi Khéops, ont installé un deuxième chantier dans le chantier. Et ce deuxième chantier dans le chantier, c'est la chambre du roi. C'est la première fois dans l'architecture funéraire égyptienne qu'une chambre se retrouve aussi haut dans la masse. Le sol de la chambre du roi est à 43 mètres et la chambre elle-même et ses plafonds, ses chambres de décharge, se développent jusqu'à plus de 60 mètres de hauteur. Donc le gros problème, c'est que cette chambre a été faite comme un coffre-fort avec des blocs de granit et des poutres de granit. Et là, le problème, c'est que les poutres de granit, on ne les a pas à Gizeh. On les a à Assouan, c'est 900 km au sud. Et c'était un travail énorme d'extraire des poutres de granit. Il y a 3400 tonnes de granit. Les Égyptiens, les concepteurs ont dit aux carriers d'Assouan, écoutez, nous, on va faire une pyramide. On fait la chambre du roi en granit. Mais comme on sait que ça va être très long, on vous demande simplement de nous avoir approvisionné le chantier à la 14e année du chantier, que tout soit au port. Et on s'arrangera pour monter ces poutres là-haut. On ne peut pas mettre les poutres au départ dans la pyramide parce qu'il faut des années et des années pour extraire les blocs et les amener depuis Assouan. Et les Égyptiens se sont dit, on va régler le problème, mais on ne peut pas tirer ces poutres avec des attelages humains parce qu'il faudrait 400, 600 personnes. On ne peut pas coordonner des groupes humains aussi importants. Alors ils ont divisé pour régner. Ils ont inventé le système du contrepoids. Et dans la grande galerie, dans la pyramide, ils ont créé une grande galerie qui est une coulisse de contrepoids. Et simplement, comme une machinerie d'ascenseur, enfin une glissière d'ascenseur, mais ou de funiculaire oblique. Et donc, ils ont mis un contrepoids dans la grande galerie avec trois blocs de granit qui sont toujours dans la pyramide et qui bloquent la partie basse de l'accès à la grande galerie. Et en divisant pour régner, ça leur a permis de diminuer considérablement le nombre d'attelage humain pour tirer les poutres. Et l'explication de la Grande Galerie, c'est uniquement ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont liées à cette construction. Rien que la conception de la pyramide, l'intérieur, est liée à la position de la Grande Galerie dans la pyramide. La Grande Galerie, c'est la grue de chantier. Voilà.
Mais est-ce que vous avez des indices, des preuves qui prouvent que vous avez raison et que cette théorie, elle tient la route ?
Alors des indices, quand j'ai commencé à penser au contrepoids, c'est il y a 12 ans. Donc, vous voyez, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est bien gentil une rampe extérieure, c'est bien gentil une rampe intérieure, mais il y a des poutres de 45 à 60 tonnes, c'est pas avec les êtres humains qu'on va réussir à les monter. Et donc, en regardant la grande galerie avec tous ces détails, je me suis dit, mais ça ressemble à une... J'avais une vieille photo des frères Edgar, de 1905, et on avait l'impression d'une friche industrielle de quelque chose en béton qui avait été abandonné. Et puis en regardant de plus près, je me suis dit, mais c'est une glissière. Il y avait quelque chose qui faisait des allers-retours. Petit à petit, j'ai élaboré donc le système, la description du système. Et en 2008, quand on a fait le documentaire avec Bob Breyer, qui est un égyptologue américain, on est allé voir sur place les détails. Je le laissais découvrir les indices, parce que moi, je les avais déjà repérés. Et il y a des indices qui parlent de partout. Il y a des endroits où on voit des striures sur les murs latéraux. Enfin, je ne vais pas vous donner les détails, mais tous les détails que je cherchais, je les trouvais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on a une idée, une intuition, on fait une recherche et qu'on va sur place, on trouve. Enfin, dans mon cas.
Monumental, aujourd'hui, la pyramide de Khéops, avec Jean-Pierre Houdin, architecte.
Et il n'y a pas très très longtemps, il y a 2-3 ans, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais monsieur Houdin, vous montez les poutres avec votre contrepoids depuis le bas de la rampe extérieure jusqu'au niveau de la chambre du roi, mais comment vous faites pour les monter du port où elles arrivent jusqu'à la base de la rampe extérieure, qui est quand même 50 mètres plus haut que le port ?» Et je lui ai dit « Monsieur, vous avez parfaitement raison, il faut que j'explique pourquoi et comment ils ont monté les poutres jusqu'au bas de la rampe extérieure. » Et là, par hasard, un ami australien m'a envoyé une photo de Spelterini qui date de 1920. C'est une photo vue de dirigeable. Et là, il y a eu un déclic et je me suis dit, la chaussée monumentale de Khéphren, c'est pas la chaussée monumentale de Khéphren à l'origine, c'est la rampe du port de Khéops. Je commençais à bien regarder, je me suis dit, on a le port, on a cette rampe qui va juste pratiquement en angle droit à l'autre bout avec la rampe extérieure. Il devait y avoir un contrepoids. Et si le contrepoids a existé, il doit être dans la pyramide de Khéphren. Évidemment, on ne peut pas soulever la pyramide de Khéphren, mais je dois trouver un indice. Et j'ai trouvé un indice, tout simplement, c'est que dans le prolongement de cette rampe, à l'intérieur de Khéphren, à 12 mètres de profondeur, il y a un couloir qui mène de l'entrée de Khéphren jusqu'à la chambre funéraire de Khéphren, qui est creusé dans le sol, à 12 mètres de profondeur. Et exactement dans l'axe de cette rampe, à l'endroit où je dis qu'il devait y avoir une tranchée, une coulisse de contrepoids, c'est-à-dire creusée dans le sol, eh bien le couloir d'accès qui est creusé partout, sur 8 mètres, il est construit, à 12 mètres de profondeur. Sol, mur et plafond. C'est assez étonnant d'avoir un indice pareil. Et quand je suis allé... À la suite, je suis allé à Khéphren, je suis allé voir de mes yeux les joints des pierres. J'étais avec un gardien de la pyramide que j'ai déjà rencontré plusieurs fois. Et je lui ai dit, viens, on va aller avec un maître. Et il se demandait où est-ce qu'on allait me faire des mesures. Et puis je me suis arrêté en plein milieu du couloir. Il m'a dit, pourquoi tu t'arrêtes là? Je lui ai dit, tout simplement parce que je vais prendre des mesures, parce que tout ça, c'est maçonné. Il m'a dit, mais comment t'as deviné ça? Parce que lui, il le savait, il vivait dans la pyramide depuis des années, il ne savait pas pourquoi, mais il savait qu'il y avait une partie maçonnée, ça l'intriguait, et il a compris pourquoi.
Et pour la rampe intérieure, vous avez eu des confirmations aussi?
En 2002 ou 2003, donc j'étais toujours pas allé aux pyramides, j'avais un ami de mon père qui avait dit « Tiens, j'étais en Égypte, j'ai une photo, tout ça ». Et sur les photos, je voyais quelque chose qui m'intriguait, c'était sur l'arête nord-est de la pyramide, il y avait comme une sorte de trou. Et en calculant par rapport à la trajectoire de la rampe dans la pyramide, je me disais, tiens, c'est bizarre, parce que ça pourrait correspondre à un endroit où je dis il faut tourner les traîneaux pour passer d'une section de la rampe à la suivante. Et pendant le tournage en 2008 avec Bob Breyer, j'avais demandé une autorisation pour aller voir ce qui se passait là-haut. On me l'a refusé parce que j'étais pas égyptologue. Mais Bob Breyer, qui lui était égyptologue, a pu monter avec un caméraman. Alors je lui avais dit, tu es mes yeux, tu prends des mesures, tu regardes, tu prends des photos. Il est monté, et moi je l'ai regardé monter, j'étais en bas. Un petit peu frustrant, mais enfin c'est...
Look.
Observe la forme de cette encoche.
Okay. D'accord.
Le sol.
Okay.
Les murs.
Yes. Et je prends plein de photos.
Oui, plein de photos.
Okay.
Et redescends sain et sauf.
It's a deal. Okay, ça marche.
Take care.
Quand il est redescendu, il avait le visage un peu chiffonné. Il me dit, tu sais Jean-Pierre, le sol de là-haut, c'est pas si plat que tu disais, c'est pas... Puis d'un seul coup, il me dit, par contre, je suis rentré dans une pièce. Comme une coupole. Je lui dis, c'est maintenant que tu me le dis. Et cette pièce-là, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, parce que c'est exactement à l'endroit où je dis, il faut la rotation. Et ça m'a permis de faire une mise à jour de ma théorie, où là, je suis complètement à l'intérieur de la base au sommet. Ça c'est quand même assez étonnant. Un ami, Marc Chartier, qui a un blog qui s'appelle Pyramidal, avec qui je collabore depuis très longtemps, je lui ai dit, mais écoute, on n'en a jamais entendu parler, on n'a jamais lu quelque chose sur cette pièce, derrière cette encoche, est-ce que tu peux te renseigner ? Et en fouillant dans des archives de textes anciens, il a trouvé 22 textes par rapport à cette pièce. La première fois qu'elle est mentionnée dans un texte de visite de voyageurs, c'est en 1631, par un voyageur français qui dit « Je suis rentré dans une pièce à telle hauteur. » C'est là où on s'arrête pendant l'ascension de la pyramide, pour se reposer. À une époque, elle s'appelait le salon. Et les gens disaient « Vous avez qu'à monter avec une petite gourde, avec du vin frais, vous vous reposerez. Et comme ça, vous arriverez au sommet de la pyramide tout frais. » Il y en a d'autres qui disaient « C'était le péage. » Parce que c'est là où on payait le bakchiche au guide qui vous abandonnait dans cette pièce si vous ne payiez pas le bakchiche pour aller plus haut. Vous savez, à l'époque, les visiteurs étaient poussés par devant et tirés par devant, poussés par derrière par des guides locaux qui gagnaient leur vie comme ça. Et en 1850, la pièce a disparu de la littérature égyptologique. Et personne ne s'est intéressé à savoir qu'est-ce que faisait cette pièce en coupole. Et c'est vrai que c'est en coupole, parce que quand on analyse les images, on a fait des reconstitutions avec plus d'une demi-heure d'images vidéo. On a reconstitué exactement la position des pierres. C'est pas quelque chose de creusé, parce que quand on creuse quelque chose, le burin passe d'une pierre à l'autre. Là, ce sont des pierres qui sont posées les unes sur les autres. Et c'est une pièce qui est exactement sur le parcours de la rampe intérieure que j'évoque.
Mais pour la rampe intérieure, vous avez découvert aussi que la spirale était en sous-densité.
Alors ça c'est ce qui m'a fait continuer. En juillet 2000, on a appris que la fondation EDF, donc de la compagnie électrique, avait financé une campagne de microgravimétrie. La microgravimétrie, c'est l'étude de la densité des choses, enfin de la densité partout. Et que cette mission en 86, le but de cette mission de microgravimétrie était d'essayer de trouver une chambre secrète dans la pyramide de Khéops. Apparemment, ils n'ont pas eu de succès à trouver une pièce. Par contre, ils avaient trouvé une anomalie. Et cette anomalie, ils ne savaient pas trop comment l'expliquer, et ils l'avaient mis dans leur tiroir. Et quand moi j'ai appris qu'il y avait eu cette mission, je leur ai dit bon, faudrait qu'on vous rencontre parce que on va vous montrer quelque chose. Et quand on a rencontré les gens qui avaient fait cette mission en 86, on les a rencontrés en septembre 2000. Quand ils ont vu la spirale dans le dessin, dans les 3D, ils ont dit oh là là, il y a quelque chose qu'on a dans nos tiroirs depuis 15 ans, on ne sait pas quoi en faire, mais ça colle exactement à ce que vous venez de nous montrer. Et en fait, ils nous ont montré les documents et alors, dans le documentaire que vous avez vu, on monte la spirale à plat, mais j'ai aussi la coupe. On voit bien que ça monte dans l'intention des gens qui ont reproduit ce dessin, c'est de bien montrer qu'il y a quelque chose qui monte en spirale dans le volume. Et la densité est quand même assez intéressante parce qu'il y a des écarts de densité qui sont importants. Parce que le calcaire, c'est une densité de 2,05. Quand vous êtes en dessous de 1,80, et que vous avez une forme en spirale, ça ne vous montre pas une image précise de la rampe, mais ça vous montre une moyenne générale aux alentours de la rampe. Et vous voyez bien qu'à cet endroit-là, y a beaucoup moins de densité, et ça ne peut s'expliquer que par des vides, et pas par des différences de construction ou des choses comme ça.
Jean-Pierre Houdin, vos explications concernant la manière dont la pyramide de Khéops a été construite, eh bien ces explications, elles ont fait le tour du monde. Et c'est une info qui a été reprise par de nombreux médias, pour ne pas dire tous les médias.
Avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec Dassault Systèmes, je travaille depuis 2005. En 2007, on s'est dit, tiens, on va faire une présentation à la presse de la théorie. Et on ne va pas le faire d'une façon... pas drôle, on va la faire d'une façon très ludique et avec Dassault Systèmes, on a fait toute une animation 3D temps réel et relief. Alors ce ne sont pas, pour mettre bien les choses au point, on a les images scientifiques, c'est la 3D scientifique d'un côté, c'est des milliers d'heures, et puis parallèlement il y a la 3D, on va dire les belles images studio, cinéma, qui sont de la 3D uniquement de la représentation. Mais on ne peut pas dire les gens ne peuvent pas dire « Oh, ils font des belles images, mais il n'y a rien derrière. » Il y a la 3D scientifique qui est derrière, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Et donc on a fait une présentation à la presse, à la Géode, en 3D, temps réel, relief, sur un écran de 400 mètres carrés, et avec des lunettes 3D. Et bon, c'était immersif, et j'ai expliqué en direct la présentation. Dans la salle, il y avait à peu près 70 journalistes et télévisions, et c'est vrai que ça a fait le tour du monde. Le site web de Dassault Systèmes qui avait été créé pour l'occasion a reçu 2,5 millions de visiteurs en 15 jours. Et il y a eu 400 parutions de presse, il y a eu 40 télévisions. On a fait bon, toutes les chaînes françaises, mais aux États-Unis, Good Morning America sur ABC. Enfin, et puis dans le monde entier. C'était vraiment médiatiquement un très beau succès. Et pour moi, c'était assez extraordinaire parce que du jour au lendemain, on savait qui elle était, c'est la théorie. C'est quand même assez, c'est un peu un monde magique. Et en 2011, on a refait une autre présentation où on a remis tout à jour au niveau images 3D. C'est-à-dire que ce ne sont plus les images 3D de l'année de 2007, ce sont des images de 2010-2011. Et on a fait la présentation en disant, toujours à la Géode, en 3D, pour annoncer qu'il y avait aussi des antichambres. C'était le 27 janvier 2011. Pendant qu'on faisait la conférence à la Géode, il y avait la révolution qui démarrait en Égypte. Et la conférence a eu aussi un très beau succès. Mais l'Égypte, depuis, les médias se sont tournés beaucoup plus vers les événements politiques que vers les événements scientifiques ou archéologiques.
Monumental.
AEIOU, Flatfish.
Below the bottom of the soul, there's a thick layer of rubber thorns. There's a flat fish with both eyes to one side. It's blinking in the dark, it's looking hard to find a
Dressées là où le désert égyptien s'incline vers la vallée du Nil, voici les trois pyramides de Gizeh. Et voici la plus imposante d'entre elles, la Grande Pyramide, le plus grand édifice que la main de l'homme ait jamais construit. 24 siècles avant Jésus-Christ, 30 millions de tonnes de pierres ont été taillées et traînées à travers le désert, puis utilisées à une échelle et avec une précision aujourd'hui encore difficile à imiter. Ces maisons d'éternité étaient revêtues de calcaire blanc et brillant, et leur sommet était sans doute recouvert d'or.
Monumentale, aujourd'hui, la pyramide de Khéops, avec Jean-Pierre Houdin, architecte.
Quelles sont pour vous les prochaines étapes ?
Ben, les prochaines étapes, c'est toujours la même. C'est d'aller faire une mission en Égypte. En 2004, j'ai rencontré le secrétaire général des Antiquités à l'époque. Il m'a demandé, mais pourquoi tu veux savoir comment c'est construit ? J'ai dit, parce que c'est savoir comment les pyramides ont été construites, c'est quand même intéressant. C'est des êtres humains, c'est une civilisation qui était à un niveau exceptionnel. C'est quand même intéressant de savoir comment ils ont fait. Jusqu'en 2010, c'était un niet pour faire une mission. Pourtant, j'avais beaucoup de techniques non destructrices. On avait fait des essais avec des radars dans des châteaux, avec de l'infrarouge, avec beaucoup de techniques. Et donc, j'ai toujours eu un refus de faire cette mission. Mais je suis toujours en train d'essayer d'en monter une. Là, bon, la situation en Égypte est toujours tendue de ce côté-là. Mais on prépare. C'est parce qu'un jour, il y aura un feu vert et puis on pourra le faire. Et puis les techniques qu'on utilise sont tellement inoffensives pour la pyramide. L'infrarouge, on est à 400 mètres de la pyramide. C'est-à-dire la chambre d'hôtel en face, on peut travailler sans déranger personne. On a une autre technique qui est très prometteuse, c'est la radiographie cosmique. C'est quelque chose qui non plus ne touche pas la pyramide. Mais moi, je tiens à avoir une autorisation officielle. Je pourrais le faire officieusement, mais je veux une autorisation officielle. Parce que la science demande que des choses officielles. Et en ce moment, j'ai l'équipe de Japonais avec qui je travaille, qui va préparer une mission sur le temple de Prambanan en Indonésie. Là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un engouement pour les autorités pour faire cette mission. Alors, j'aimerais bien qu'un jour, en Égypte, il y ait aussi un engouement pour faire une mission qui dira à la fin, il y a des rampes à l'intérieur, il y a des antichambres ou il n'y en a pas. Et puis, s'il n'y en a pas, je dirais, bon, j'ai bien rêvé, j'ai fait un truc super sympa, j'ai vécu 14 ans de ma vie, ou 15 ans de ma vie, très très bien dans la tête, et je tournerai la page, hein, je sais tourner les pages. Et puis s'il y en a, tant mieux pour tout le monde. Hein.
Si cet homme a raison, cette découverte serait la plus importante depuis celle du tombeau de Toutankhamon.
Au final, si vos travaux s'avèrent exacts, vous aurez donné une réponse à l'énigme la plus incroyable de tous les temps. En tout cas, c'est souvent comme ça qu'on la nomme.
Voilà, alors l'énigme. Pour moi, la construction des pyramides, les pyramides, ce n'est pas des énigmes. Pour moi, le problème, il faut l'inverser. C'est notre ignorance. On a une ignorance de comment les Égyptiens ont construit les pyramides. C'est notre problème, ce n'est pas le problème des Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont fait des pyramides parce qu'ils savaient les faire. Ils ont fait des pyramides parce qu'ils ont évolué, ça a mis un certain temps, ça a mis plusieurs siècles pour arriver à faire la pyramide de Khéops. Ils ont commencé à creuser des tombes dans le socle rocheux à l'ouest du Nil, dans des fosses. Hein. Quand on voit au British Museum à Londres, il y a Ginger, qui est une momie naturelle qui a plus de 5000 ans. C'est une dessiccation naturelle d'un corps qui a été mis dans une fosse et qui a été recouvert de sable. Il n'y a pas eu de parasites, il n'y a pas eu de bactéries, donc le corps est resté pratiquement intact. Et de là, ils ont évolué pour arriver à faire des pyramides. Mais c'est une lente évolution qui a fait qu'ils ont appris au fur et à mesure, en abandonnant ce qui n'était pas bien, en continuant ce qui était bien et en améliorant. Mais ils sont toujours restés des gens simples. C'est quand vous analysez, ce sont des choses simples, ce sont des tâches simples, successives, bien ordonnées, et tout est simple en fait. Mais nous, on est tellement compliqués, on est tellement... On a perdu le sens de la logique, de la simplicité, qu'on voit pas, on n'arrive pas à se remettre dans cette logique-là. Par contre, les Égyptiens ont aussi inventé des choses extraordinaires, c'est la logistique. Parce que organiser un chantier où vous allez pendant 20 ans, 22 ans, avoir les matériaux qui vont arriver, par exemple les poutres qui arrivent avec 14 ans, enfin sur les 14 premières années, vous allez avoir les blocs de façade qui arrivent de l'autre côté du Nil, de Toura, vous avez les blocs de calcaire qui sont extraits localement. La programmation, c'est ça qui est étonnant, l'utilisation de la topographie. J'emploie le mot topographie parce qu'on va peut-être en parler. La topographie, c'est contrairement à beaucoup de gens qui font des théories sur la construction des pyramides en se mettant sur la table à plat, en disant voilà, on est sur la table à plat, la topographie a une énorme importance. Parce que les topographes, les géologues, ils sont venus chercher le terrain, d'abord choisir le terrain, parce qu'ils savaient qu'ils allaient exploiter ce terrain d'une certaine façon, exploiter les courbes, exploiter les pierres. Ça aussi, c'est de la connaissance. C'est les géomètres, ils savaient parfaitement faire préparer un chantier de pyramide, hein, ou concevoir un chantier de pyramide. Bon, moi, j'ai la chance, à cause ou grâce à mon père qui a dit on pense pas comme ça, on inverse la problématique, on se met à l'intérieur. C'est le déclic, c'est la pelote de laine, vous avez la pelote de laine dans la main, vous n'avez pas le bout, vous ne savez pas quoi en faire, vous tournez la pelote, vous trouvez un bout, vous tirez le brin, et puis au fur et à mesure, vous avez la pelote qui diminue, vous déroulez la pelote, c'est tout simple. Mais je vous dis, c'est tout simple, enfin, il y a du boulot. Mais c'est l'important, c'est la base, de partir sur le bon pied. Et c'est pour ça que l'explication n'arrivait pas, parce que les gens pensaient que c'était un tas de pierres sur lesquelles on venait se poser pour mettre des pierres. Et c'est tout le contraire.
De tous les monuments associés aux pyramides, le Sphinx est sans doute le plus remarquable. Ce gigantesque lion de pierre à tête d'homme, sa conception, sa construction et sa destination sont depuis des siècles à l'origine d'une vive controverse. 73 mètres de long, 20 mètres de haut. Le Sphinx est la première statue vraiment colossale de l'Égypte ancienne.
Il n'y a pas que les pyramides qui vous intéressent, il y a également le Sphinx.
Le Sphinx, c'est une sculpture. Pourquoi il est là? Pourquoi il a été sculpté là? Qui l'a sculpté et qui représente-t-il? Je me suis intéressé au Sphinx et petit à petit, je me suis rendu compte que le Sphinx, c'était une représentation de Khéops. Bien évidemment, que c'était en plein milieu de son chantier et que la tête, quand on dit la tête, est un petit peu petite par rapport au corps. Il suffit de regarder 300 mètres au sud du Sphinx. Il y a une colline qui s'appelle la colline aux corbeaux et il y a des têtes de Sphinx partout. C'est des rochers en calcaire qui est un peu plus dur, qui n'ont pas été érodés à la même vitesse que le calcaire, des strates de calcaire qui sont en dessous. Et en fait, le Sphinx, la tête du Sphinx, elle a été taillée dans une excroissance rocheuse qui s'est retrouvée, entre guillemets, emprisonnée dans le chantier de Khéops. En analysant encore un peu plus, vous savez qu'il y a des gens qui disent que le Sphinx est là depuis 7000 ans parce qu'il y a eu des érosions. Et que les érosions par le sable et le vent sont différentes des érosions par l'eau, les érosions pluviales. Donc il y a des gens qui nous disent que le Sphinx est beaucoup plus ancien parce que à l'époque de Khéops, il ne pleuvait pas assez pour avoir des érosions pareilles et qu'il n'y a que des érosions comme aussi prononcées par l'eau que dans la fosse du Sphinx, autour du Sphinx. Et donc ils appuient le fait que le Sphinx serait beaucoup plus ancien que les pyramides. C'est des gens qui n'ont pas analysé la topographie. Je vous ai dit que la topographie a une très grande importance, c'est que l'endroit où se trouve le Sphinx, c'est un endroit où toutes les eaux de pluie venaient s'écouler naturellement. Et quand le chantier de Khéops a été fait, il y a eu des premières érosions par l'eau à cause des carrières qui ont été creusées. Mais c'était des érosions lors des orages. Il y avait des accélérations, des concentrations de ruissellement qui faisaient déjà un premier type d'érosion. Et puis il y a eu surtout, quand les architectes de Khéphren ont mis la chaussée monumentale sur la fondation, sur l'ancienne rampe du port, là, ils ont coupé en deux le plateau. Et la chaussée monumentale de Khéphren, c'était quand même des murs qui faisaient 4 mètres de haut, et ils ont fait un effet de caniveau. Et toutes les eaux pluviales qui se déversaient entre Khéops, Khéphren, donc au nord de la chaussée monumentale, étaient canalisées et étaient envoyées de façon inattendue, dans la fosse du Sphinx. Et lors des gros orages, il y a eu une érosion qui s'est faite très rapidement. L'érosion a duré un certain temps, mais les Égyptiens ont fait des travaux pour essayer d'évacuer cette eau qui venait se stocker dans la fosse du Sphinx. Ils ont creusé sous le Sphinx. Alors on nous dit il y a des temples, des choses comme ça cachées sous le Sphinx. Non, il y a tout un réseau d'évacuation des eaux, pour des avaloirs et comme des égouts pluviaux pour rejeter ces eaux dans le port qui était un peu plus à l'est. Et le long de la chaussée monumentale de Khéphren, ils ont aussi fait des évacuations pour évacuer l'eau du nord vers le sud. Et plus tard, il y a eu, pour Mykérinos, il y a eu le même problème qui s'est fait, qui est arrivé, et les Égyptiens ont là aussi fait un système pour évacuer les eaux pluviales. Donc ce n'est pas le fait que ce soit très, très lointain dans l'histoire, c'est tout simplement un remaniement de la topographie qui a fait qu'il y a des choses qui n'ont pas été vues par les architectes au départ et qui ont été gérées par la suite. Et puis il ne faut pas oublier non plus que le Sphinx, il a été vite ensablé parce que l'érosion a dû durer à peu près sur 200-300 ans. Parce que le plateau de Gizeh a été, juste avant la première période intermédiaire, il a été occupé par des maisons. Et après, il a été abandonné et le Sphinx a été ensablé. Donc là, les écoulements pluviaux étaient complètement différents puisque l'eau était absorbée par le sable. C'est l'exemple type de réflexion qui arrive quand on commence à bien connaître le problème du plateau de Gizeh, c'est que on est obligé d'aller au-delà de simplement la pyramide. Donc il faut tout expliquer, quoi. Mais tout vient l'un après l'autre, quoi. Je peux vous parler de la pyramide rouge aussi, mais ça sera pour plus tard. Pour moi, la Khéops, c'est une pyramide qui est magnifique, mais la pyramide rouge, elle est aussi magnifique au niveau géométrie. C'est un petit chef-d'œuvre parce que là, c'était, il faut la faire vite, il faut la faire bien. Et ils l'ont fait vite et très très bien.
Agnès Obel.
Ooh. Monumental, une émission de
Joanne Ducey.
Réalisation
Marc Frochot.
Recherchiste
Stéphanie Coudray.
Studio de Paris
Alexandre Lemierre.
Site internet
Dany Sulam.
Programmation musicale
Karine Vouillamo.
Toute l'équipe vous donne rendez-vous la semaine prochaine et nous partirons pour l'Indonésie. Monumental, prochaine escale.
J'ai dû entrer à Borobudur à 9h du matin, j'en suis ressortie au milieu de l'après-midi et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai choisi de faire de l'archéologie javanaise ma profession. C'est un monument unique au monde, c'est un témoignage exceptionnel du génie artistique javanais. C'est aussi un paysage fantastique, pas seulement un monument, mais un choix de lieu fantastique. Être là et voir les volcans, c'est magique. Mon nom est Véronique de Groot. Je suis archéologue et chercheur à l'École française d'Extrême-Orient. Retrouvez-moi dans l'émission Monumentale.
La première, bel après-midi à tous, il est 15h.